Europe Soir.
Bonsoir.
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous et ravi de vous accompagner dès ce soir exceptionnellement pour deux heures d'infos, de débats et de sport évidemment avec dès 21h une grande soirée rugby à vivre sur Europe 1. Ce match France-Écosse, on vous en parle dans quelques instants. Des Bleus qui peuvent encore gagner le tournoi des Six Nations. Et notre invité Bernard Laporte dans un quart d'heure qui a confiance dans ce collectif, dans sa solidarité. Il a gagné quatre fois ce tournoi comme sélectionneur, il sait de quoi il parle. 18h30, le débat des grandes voix de ce vendredi. Une classe fermera désormais au premier cas de Covid, c'est ce qu'annonce Jean-Michel Blanquer. Matignon durcit le contrôle dans les gares, les aéroports, les péages routiers. Autrement dit, Emmanuel Macron est-il de nouveau au pied du mur? Ce sont nos échanges à suivre ce soir sur Europe 1. Et puis 19h20, le club des idées, l'humour, la dérision, la parodie comme arme de résistance de certains artistes. C'est leur point commun à nos trois invités ce soir, Christelle Chollet, Christophe Alévèque et Nicolas Briançon. Mais voici d'abord l'info, le journal avec Christophe Lamar ce soir. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Wendy.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 18h. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
Aller chercher ce week-end. Ça serait énorme pour nos supporters, pour nous, pour nos familles, parce que ça fait tellement longtemps que tout le monde attend ça.
Eh bien, faites-vous plaisir et faites-nous rêver. Le 15 de France de rugby affronte l'Écosse ce soir à Saint-Denis. Les Bleus peuvent encore remporter le tournoi des Six Nations.
Le match est à 21h, mais la soirée spéciale rugby sur Europe 1 dès 20h. Retour de Lionel Rousseau, ses invités de choix et match à suivre, évidemment, en intégralité, Christophe.
Le gouvernement renforce le protocole sanitaire dans les écoles, les collèges et les lycées dans les 19 départements confinés. Un seul cas entraînera automatiquement la fermeture de la classe, dit le ministre de l'Éducation.
Qu'est-ce que cela changera en matière d'organisation pour les enseignants, les professeurs, mais aussi les parents d'élèves? On verra tout cela avec Virginie Riva.
L'Église veut indemniser les victimes de pédophilie. La Conférence des évêques de France vient de voter un texte qui fera date. Elle reconnaît la responsabilité pleine et entière de l'Église.
Et puis en musique, le retour d'Eddie de Préto. L'artiste sort un nouvel album. Un clin d'œil à ceux qui se sentent différents.
Et puis la Bourse de Paris finit en hausse de 0,61% à 5 988 points.
Petit clin d'œil météo, Anissa Haddadi, encore quelques nuages demain.
Oui, nous allons avoir une nuit pluvieuse sur toute la façade est. Demain, des nuages sur la moitié nord et au sud de la Loire, l'ambiance sera printanière. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La victoire ne suffit pas, ça pourrait peut-être faire un titre pour un futur James Bond, mais c'est d'abord le message que va faire passer Fabien Galthié aux joueurs du 15 de France.
Qui affronte l'Écosse à 21h au Stade de France? Les Français peuvent encore gagner le tournoi des Six Nations, mais attention, c'est là que ça se complique, c'est pas si simple.
Et oui, il faudra non seulement battre les Écossais, mais il faudra aussi le faire avec une pluie de points. Et d'essai, Simon Rubin.
C'est exactement ça. Pour remporter le tournoi, les Bleus doivent gagner par 21 points d'avance, tout en marquant 4 essais. 4 essais synonymes de points de bonus au classement. Autre possibilité, c'est beaucoup moins probable, gagner par 20 points d'avance, mais marquer au moins 6 essais. Alors, gagner avec autant de marge dans le rugby moderne, il faut rappeler quand même que c'est très rare, même contre des sélections faibles. Mais après des années de déception, pour la première fois depuis longtemps, eh bien, il y a un espoir. Tout le monde y croit dans l'équipe de France, raconte Gaël Ficou, joueur le plus expérimenté du groupe.
Les années précédentes, on a beaucoup perdu. Ça n'a pas été simple, mais aujourd'hui, on gagne de nouveau. On a un titre à aller chercher ce week-end. Ça serait énorme, mais même pour les jeunes joueurs, ils ont conscience que ça fait 10 ans que l'équipe de France ne gagne pas. J'ai mangé le mauvais pain avec l'ancienne génération et donc j'ai conscience aussi que ça serait énorme pour nos supporters, pour nous, pour nos familles, parce que ça fait tellement longtemps que tout le monde attend ça.
S'accrocher à cet espoir pour renverser l'Écosse, qui est une équipe extrêmement forte, ça promet. Ce match va ressembler à une épreuve contre la montre. Les Bleus auront donc 80 minutes pour marquer au maximum. Niveau dramaturgie, on fait difficilement mieux.
Voilà, c'est un film à suspense, c'est un match à suspense. Simon Rubin, coup d'envoi de ce France-Écosse à 21h, ce sera suivi en direct sur notre antenne.
Comme si vous y étiez, ce dernier match du tournoi des Six Nations, vous le suivrez après une émission spéciale consacrée à cette rencontre dès 20h. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Wendy.
C'est vous qui serez aux rencontres de cette soirée sportive.
J'ai cette chance, effectivement, avec le match en intégralité, vous le savez, à 21h, Simon Rubin, Éric Blanc au Stade de France et un plateau de choix pour nous emmener jusqu'à ce coup d'envoi. Déjà, Kali, le chanteur, grand passionné de rugby, sera avec nous. Il nous dira sans doute que c'est ce soir le bonheur pour l'équipe de France, on l'espère en tout
bien
cas.
Joué.
Et puis ensuite, uniquement dans ce casting, des éléments, des joueurs et des joueuses qui ont gagné le tournoi. Fabien Pelousse, qui l'a gagné 6 fois, 4 grands chelems, Xavier Garbajosa, mais également Gaëlle Hermé, la capitaine du 15 de France féminin. toutes et tous vont donner l'impulsion et de bonnes ondes à nos Bleus ce soir pour réussir l'exploit.
Émission spéciale, donc équipe de France de rugby à partir de 20h, avant le match à suivre à 21h. Et puis avant ça, dans 10 petites minutes sur Europe 1, notre invité Bernard Laporte, président de France Rugby et qui a gagné 4 fois ce tournoi comme sélectionneur. Son avis compte évidemment dans ce débat. 18h04 sur Europe 1, c'est Christophe Lamarre qui vous informe. Et la crise sanitaire, c'est ni remords ni regrets pour Emmanuel Macron qui assume sa stratégie jusqu'à présent et qui prévient qu'il y aura tout de même d'autres mesures à prendre. Il les assumera aussi dans les prochaines semaines.
Est-ce que cela annonce un tour de vis supplémentaire face à l'emballement de l'épidémie dans certaines régions ? L'exécutif dit qu'il faudra 15 jours pour mesurer les effets de ce confinement qui n'en est pas tout à fait un.
Mais ce sera trop tard pour enrayer la circulation du virus dans les écoles. C'est ce que disent les médecins qui réclament la fermeture des écoles. Souvenez-vous de certains élus comme Valérie Pécresse qui proposaient d'avancer les vacances scolaires de 15 jours, par exemple, en Ile-de-France.
Oui, pour l'instant, le gouvernement maintient les écoles ouvertes avec renforcement du protocole sanitaire dans les établissements. L'école est fondamentale pour notre pays, martèle le ministre de l'Éducation. Mais Jean-Michel Blanquer adapte la stratégie aux circonstances. Désormais, dans les 19 départements en confinement, un cas positif entraînera la fermeture de toute la classe.
Dès qu'un cas sera constaté, un seul cas constaté, on fermera l'ensemble d'une classe. Cela vaut dans les 19 départements qui sont donc concernés par le renforcement du protocole sanitaire. Cela vaut pour chaque niveau de classe, donc de la petite section de maternelle jusqu'à la classe de terminale. Et cela va nécessairement signifier plus de fermetures de classe au cours des prochains jours. Nous déclencherons l'enseignement à distance, comme nous le faisons déjà quand nous fermons des classes pour les élèves. Et ce travail permettra une certaine continuité pédagogique.
Voilà pour cette nouvelle mesure claire et annoncée il y a une heure et demie par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Concrètement, Virginie Riva, qu'est-ce que cela change ?
Eh bien, la conséquence principale, c'est que le nombre de classes fermées va nécessairement augmenter. Ce soir, il y a déjà 3256 classes fermées. Il faut s'attendre à beaucoup plus la semaine prochaine. Cela va nécessiter plus de réactivité. Le ministre l'a dit, il y a encore des dysfonctionnements sur le terrain. L'éducation nationale va pouvoir donc décider seule de ces fermetures sans attendre forcément le feu vert de l'ARS ou de la préfecture, a expliqué le ministre. Et ça va nécessiter plus de remplaçants du côté des enseignants malades, car le ministre l'a reconnu, il y a des territoires sous tension. Première réaction à ce stade d'un syndicat que nous avons pu joindre, le SNES, qui avait été convoqué avec d'autres organisations en urgence cet après-midi par le ministère. Si la seule annonce se résume à la fermeture dès qu'il y a un seul cas, c'est insuffisant. Le syndicat qui regrette notamment qu'aucune annonce n'ait été faite sur le passage en demi-jauge au collège. Jean-Michel Blanquer a simplement indiqué qu'il laissait plus de souplesse au recteur si au cas par cas, certains collèges voulaient passer en demi-jauge ou en quart de jauge. C'était une mesure attendue pourtant, car le virus dans cette tranche d'âge circule fortement, mais elle n'est pas prise à ce stade. Exit aussi la proposition d'un avancement des vacances scolaires. Le ministre a dit qu'il fallait là faire preuve, je le cite, de discernement, puisqu'on observait souvent plus de cas au retour de vacances, ce qui laisserait supposer qu'il y a plus de contamination pendant les vacances scolaires.
Virginie Riva, spécialiste éducation à Europe 1.
En tout cas, cette situation française dégradée inquiète notre voisin allemand. Désormais, tout voyageur en provenance de France sera soumis à un test de dépistage obligatoire. En ce moment, la réflexion est en cours sur les adaptations à trouver pour les travailleurs transfrontaliers.
Et puis, on vous en parlait en début de semaine, Limoges était l'une des dernières villes de France où l'on pouvait se promener sans masque. C'est bientôt fini, il sera obligatoire à partir de ce dimanche dans toutes les communes de plus de 3500 habitants de la Haute-Vienne. Et bien pour les habitants du département, il faudra non seulement avancer sa montre d'une heure, mais en plus, ne pas oublier son masque.
Ouais, la crise qui fait s'envoler également, vous le savez, la dette et le déficit français à des niveaux jamais vus.
La dette française a atteint 115% du PIB l'an dernier. Le déficit public s'est établi à 9,2%. C'est un petit peu moins que les prévisions catastrophiques du gouvernement, mais c'est toujours 18 points de plus par rapport à l'endettement avant crise. La dette représentait 97% du produit intérieur brut en 2019.
Europe 1, Wendy Bouchard.
Il est 18h08, le journal revient avec Christophe Lamarre. On va s'intéresser à l'Église qui va donc dédommager les victimes de pédophilie.
Et puis Eddy de Pretto revient et prend la défense des différences.
Europe Soir, le 18-20, Wendy Bouchard.
Et Christophe Lamarre, pour vous informer avec à la une un texte très important que vient d'adopter la Conférence des évêques de France. L'Église a bien une part de responsabilité dans les crimes pédophiles qui ont été commis en son sein.
Le texte comprend 11 résolutions sur la responsabilité de ses membres qui se sont livrés à des actes pédophiles et sur la responsabilité de l'institution. Benjamin Péter, l'Église envisage de dédommager les victimes.
Oui, il s'agit précisément d'une contribution financière. C'est le terme exact qu'ils ont choisi. Pas question de parler d'indemnisation, trop juridique. Là, c'est plus une somme forfaitaire qui sera proposée aux victimes qui le souhaitent pour les aider à se reconstruire. Le montant sera fixé par une instance indépendante en fonction du nombre de victimes recensées par la commission Sauvé. Pour ça, on sera fixé à l'automne. Et des fonds dont l'Église disposera, parce qu'évidemment, il va falloir financer tout ça. Alors, Monseigneur Dominique Blanchet, l'évêque de Créteil, lance un appel aux fidèles.
On part de rien. Le denier du culte ne sera pas consacré à cela, parce que quand les donateurs font un don, il y a une intention liée au don. Donc là, nous nous sommes dit qu'il fallait une intention spécifique sur ce fonds de dotation. Il faudra abonder ce fonds. Nous, les évêques, nous sommes décidés à le faire. Mais j'allais dire à titre personnel. Pas tant comme évêque, mais aussi comme fidèle, et en appelant tous ceux qui veulent et qui donnent sens à ce que ce fonds va permettre. J'ai envie que chaque personne puisse se dire, moi je comprends le sens de ça. Pour les personnes qui ont été victimes de ces abus, ça je peux le faire, alors je vais le faire.
Le fonds permettra aussi de créer un lieu mémoriel, probablement à Lourdes. Par ailleurs, une lettre sera diffusée à tous les fidèles dans les prochains mois et les premières contributions financières devraient être versées aux victimes début 2022.
Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. C'était une demande d'Emmanuel Macron, Christophe. Une commission d'historiens vient de remettre son rapport sur l'implication française dans le génocide rwandais.
En 1994, les Hutus avaient organisé le massacre d'au moins 800 000 Tutsis. La France, qui était très impliquée au Rwanda, avait été montrée du doigt. Pour les historiens, elle porte des responsabilités lourdes et accablantes dans les dérives du régime qui ont conduit au meurtre de masse, mais dans leur rapport, ils précisent tout de suite que rien ne vient démontrer une complicité de l'armée française dans le génocide.
Dans le canal de Suez, c'est toujours la course contre la montre. Il s'agit de dégager le porte-conteneur qui bloque toute navigation.
Oui, il s'agit de la tentative pour renflouer l'Ever Given. C'est le nom de ce porte-conteneur de 400 mètres de long a échoué cet après-midi. Et selon un spécialiste français, le bateau n'est pas endommagé, ce qui devrait faciliter les opérations de remorquage.
Et puis terminons ce journal en musique, si vous le voulez bien, avec un retour attendu, celui d'Eddie de Préto.
Il publie À tous les bâtards. Dit comme cela, il y aurait de quoi tousser. Mais attendez un peu, cet album s'adresse à des gens qui, comme Eddie de Préto, se sentent différents et pas toujours en phase avec le monde qui les entoure. Angèle Châtelier.
Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche.
Toutes nos différences, si elles sont mises en avant et elles sont assumées, et ben pour moi c'est là que transpire au mieux une société.
Parfaitement, je ne serai jamais comme t'es.
Ce deuxième album d'Eddie de Préto est une ode aux gens différents, dit-il, qui ne correspondent pas aux normes sociales imposées.
Le moche, le chelou, le bizarre, le pédé, le bâtard. J'ai vachement reçu ces mots-là. Et donc du coup, au lieu d'être accablé, de les porter comme une faiblesse, c'est de dire en fait, ces différences-là, ça va être que du positif. Et c'est ça qui sera le plus beau.
À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart.
Il évoque aussi son enfance, en banlieue parisienne à Créteil, là où dans sa chambre d'ado, il se projetait dans une vie d'artiste.
J'entends aussi les notes improvisées de mon clavier où je me promettais qu'un jour je saurais parfaitement jouer.
Une vie qu'à 27 ans, après des centaines de milliers d'albums vendus, Eddie de Préto ne se contente plus de rêver.
Je suis à nu, à vue.
Le reportage d'Angèle Châtelier, Eddie de Préto, nouvel album À tous les bâtards, pour tous ceux qui se sentent différents, mais aussi pour les autres qui ne se sentent pas forcément différents. Enfin bref, c'est pour tout le monde.
C'est à partager en effet, comme votre journal Christophe Lamar. L'info revient avec vous à 18h30 sur Europe 1. La météo, Anissa, Dani, on vous retrouve. Et le retour des éclaircies est au programme. Ça, c'est une jolie nouvelle pour le week-end.
Doucement, mais sûrement, Wendy. Après une nuit pluvieuse sur toute la façade est entre l'Alsace et la Provence, demain matin, les pluies vont s'évacuer doucement. En tout début de journée, sur les Vosges, nous aurons quelques flocons de neige à partir de 400 mètres d'altitude. Sur les Pyrénées, la neige et la pluie se mêlent à 1200 mètres. Sur la moitié nord, nous avons toujours un temps encore mitigé, hein, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace au nord de la Seine. On a des nuages qui sont menaçants avec quelques averses en début de journée. Le ciel s'éclaire doucement dans l'après-midi. Et sur le reste du pays, en particulier la moitié sud, le temps reste calme, sec et de plus en plus lumineux avec de belles éclaircies qui arrivent. Attention, dans le sud, le Mistral et la Tramontane sont en train de se réveiller et ça va souffler jusqu'à 60 km/h. Alors la température demain matin, elle sera un petit peu plus fraîche. 0 degré à Aurillac, 2 à Rennes et Clermont-Ferrand, 5 à Paris, 7 à Lyon, 8 à Nice et 11 à Perpignan. Puis au meilleur de la journée, c'est comme aujourd'hui, 12 degrés pour Besançon et Saint-Etienne, 13 à Paris, Clermont-Ferrand et Strasbourg, 17 degrés à Bastia et Bordeaux, 18 à Montpellier et 20 à Toulon. Petite patience encore demain et à partir de dimanche, c'est du grand, beau et généreux soleil pour tout le monde.
Voilà, c'est la lumière qui arrive et qui s'installe pour le printemps. Merci Anissa Dadi, à tout à l'heure dans un petit quart d'heure.
Europe 1, Wendy Bouchard.
À suivre sur notre antenne, l'attente des joueurs et des supporters. On est à 2h30, un peu plus, du coup d'envoi du match France-Écosse au tournoi des Six Nations. Les Bleus qui peuvent encore gagner le tournoi, un titre que nous attendons tous avec ferveur depuis 2010. Dans la tête d'un ancien coach, je reçois le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Wendy Bouchard.
Merci d'écouter Europe 1 au soir d'un match que les supporters du 15 de France attendent avec autant de stress et de délectation que les joueurs. 21h en intégralité, grande soirée sportive sur notre antenne France-Écosse avec des Bleus qui peuvent encore gagner le tournoi des Six Nations. Et avant cette échéance, nous accueillons le président de la Fédération française de rugby. Bonsoir Bernard Laporte.
Bonsoir.
Vous avez gagné 4 fois ce tournoi comme sélectionneur. C'est dire si vous vous mettez dans la peau ce soir de Fabien Galthié. Qu'est-ce qui domine chez vous, Bernard Laporte ? Le trac ou la confiance à 2 heures de l'échéance ?
Non, c'est l'adrénaline des grands matchs, parce qu'effectivement, ce match est synonyme de victoire dans le tournoi ou pas. Avec, on le sait, un différentiel de points de 21, ce qui n'est pas facile. Donc voilà, on fait de la compétition pour ces matchs-là. Donc je suis, bien sûr, moins imprégné que quand j'étais sélectionneur, mais comme tout supporter de l'équipe de France, ouais, je suis très excité à... de voir ce match et je suis confiant aussi. Je pense que notre équipe est capable de le faire.
Différentiel de points, 21 points. À ce stade de la compétition, c'est quand même du costaud. Ça relève de l'exploit, honnêtement.
Oui, oui parce que l'équipe d'Écosse est une bonne équipe. Mmh. C'est surtout ça. Donc, ce ne sera pas facile, mais cette équipe est capable de le faire. Elle est tellement géniale. Elle nous transmet tellement d'émotions que je suis convaincu qu'elle est capable de relever ce challenge.
Des Bleus qui sont allés puiser tout ce qu'ils avaient en eux la semaine passée, c'est exactement ce qu'il faudra reproduire ce soir dans les tripes.
Oui, exactement la même chose. Je crois que quand Paul Villemcé a été exclu, moi le premier, je ne pensais pas que cette équipe soit capable d'inverser la vapeur. Mmh. On était mené au score, on était en infériorité numérique. Et là, paradoxalement, à ce moment-là, il y a un effet qui s'est créé. Ils se sont vraiment ressaisis, resserrés. Et effectivement, il faudra faire la même chose face à l'Écosse pendant 80 minutes si on veut relever ce challenge.
C'est ce que vous aimez chez eux, Bernard Laporte, chez ce collectif. Beaucoup de solidarité, beaucoup d'énergie et j'allais dire peut-être la prime à la jeunesse. 26 ans de moyenne d'âge, ce 15 de France qui peut se féliciter d'être à ce niveau peut-être l'équipe la plus jeune, mais aussi la moins expérimentée du tournoi. Est-ce que ce 109 est tout de même un ingrédient possible pour cette victoire ce soir ?
Oui, c'est possible, mais comme je disais, il faut laisser le temps au temps.
Bien sûr.
Cette équipe, elle a depuis la Coupe du Monde 2019, c'est-à-dire elle a même pas 18 mois d'existence. Donc voilà, laissons-la grandir, laissons-la évoluer, elle évolue bien. Elle est aussi capable de faire de grandes choses, mais elle maîtrise aussi le fait que elle a perdu l'Angleterre, ça a été difficile contre les Gallois, elle sait, encore une fois, qu'elle a des efforts, du travail à réaliser, mais l'état d'esprit est bon. Et ça, c'est le plus important, effectivement. Et quand on veut réaliser un exploit, comme il faudra le faire tout à l'heure, il faut d'abord ça. Cette solidarité que vous évoquiez, cette envie d'être ensemble, d'être grand, de faire des choses immenses, il faut ça. Cet état d'esprit, cette équipe, elle l'a. Et elle devra s'appuyer là-dessus pour faire ce grand match.
21h, les Bleus qui affrontent l'Écosse et qui devront gagner avec 21 points d'avance et marquer au moins 4 essais. On en parlait de cet effort à réaliser. La France n'a pas gagné depuis 2010. On peut donc comprendre ce qui mentalement se passe dans la tête des supporters, ça c'est acquis, mais dans la tête de ses joueurs aussi. Sauf que là, il faut se déconnecter de cette pression. Le fait que, à cause du Covid, il n'y ait pas de public, est-ce que cela finalement facilite un petit peu les choses ?
Oui, c'est une arme à double tranchant, le fait qu'il n'y ait pas de public. Effectivement, il y a moins de pression quand tu reçois, mais il y a moins de soutien aussi. Je m'imagine le match de samedi dernier avec 80 000 personnes au Stade de France, ça aurait été renversant, ça aurait été énorme. Et là, le public aurait été un atout majeur. Donc oui, il y a encore une fois du bien et du pas bien. Ça enlève de la pression, c'est certain, mais quand on est compétiteur, quand on joue en équipe de France, on a envie de marquer son territoire, de marquer l'histoire. Et donc c'est pour ça que public ou pas public, je crois qu'ils auront à cœur encore une fois d'écrire leur histoire, c'est ce que je leur disais. Maintenant, au-delà des émotions que vous nous transmettez à nous les passionnés, écrivez votre histoire.
Fabien Galthié, votre ami le sélectionneur, disait la semaine passée que c'était pour lui ce match une piscine de bonheur. Alors il va falloir nager encore pour que la piscine s'étende. Mais cette méthode Galthié, si vous deviez la résumer à ceux qui sont un peu béotiens dans le rugby, vous la définiriez comment, Bernard Laporte ?
D'abord, Fabien est un grand technicien, ça c'est la première des choses. Et quand on occupe ce poste-là, c'est la première des qualités et des compétences qu'il faut avoir. Il a créé un staff considérable. Jamais une équipe de France n'a eu un staff aussi complet, oui, avec autant de compétences venues de partout. Hein, avec par exemple Sean Edwards, qui est officier pour l'équipe galloise et qui maintenant est dans le staff de l'équipe de France. Fabien s'est bien entouré, il a compris ce que c'était les enjeux du rugby moderne, je dirais. C'est ça sa grande force. Et puis, il a du crédit, ça a été un très, très grand joueur. Voilà, il a baigné de bonheur, vous disiez, mais ouais, il baigne bien dans ce monde-là. Il a du crédit aux yeux des joueurs, c'est une évidence. C'est une de ses forces.
Les enjeux du rugby moderne, c'est-à-dire notamment savoir tout décrypter, décortiquer les images, quitte à les contester, notamment sur la vidéo-arbitrage.
Bien sûr, bien sûr, et aller chercher des compétences. Vous savez, on avait un staff qui était composé, je crois, d'une douzaine de personnes jusqu'à maintenant.
Oui.
Ils sont le double. C'est aussi simple que ça. Avec des gens qui travaillent beaucoup dans l'ombre, hein, sur les ordinateurs, sur les adversaires, et qui préparent des vidéos, etc., etc. C'est un très gros travail, effectivement. Tout est dans le détail. Mais ça, les autres équipes, les grandes équipes, l'avaient déjà, hein, depuis un certain temps. Donc on s'est simplement remis, je dirais, à jour. Voilà. Et ça, ça nous permet encore une fois de pouvoir rivaliser, d'avoir au moins une équipe compétitive. Et puis, n'oublions pas le talent de ces joueurs. Voilà, on a des joueurs qui sont à la dimension internationale. Peut-être que pendant quelques années, on n'avait pas ce profil de joueur.
Si vous les aviez face à vous, là, à 2 heures de l'échéance, alors on disait votre confiance, et nous la partageons, Bernard Laporte, aucune sortie de terrain n'est possible là. On est dans l'offensive, évidemment, mais attention, chaque faute peut être... C'est catastrophique.
Oui, moi je dirais simplement qu'il faut construire le match comme ils l'ont construit jusqu'à présent. Ça ne sert à rien de dire on va attaquer de partout. Non, il faut construire un match. On sait très bien que la première mi-temps sera, en termes d'intensité, plus dure que la deuxième, parce qu'après il y a la fatigue qui arrive, etc. Donc tout va jouer. Voilà. Il faut laisser le temps au temps. Là aussi, ce sera certainement le leitmotiv. Et puis, voilà, on sait très bien que c'est une équipe qui défend bien, l'Écosse. Donc ce ne sera pas simple. On ne va pas marquer 30 points en 20 minutes. Mmh. Ça n'existe pas. Voilà, donc faisons les choses dans l'ordre. Et puis, ce qui sera, bien sûr, très important, c'est les 30 dernières minutes. Voilà, la fatigue aidant, les remplacements qui vont se faire côté écossais ou côté français. Et puis, le money time, il sera là, il sera dans les 30 dernières minutes, c'était évident.
Inutile de dire qu'on prendra tous 100 ans ce soir à partir de 21h pour ce match à suivre sur Europe 1, France-Écosse. Les Bleus qui peuvent encore gagner le tournoi des Six Nations. Que changerait une victoire, Bernard Laporte, dans le tournoi des Six Nations, financièrement pour la Fédération française de rugby que vous présidez?
Financièrement, il y a un ratio qui est de... Si tu es premier ou deuxième, je crois que c'est 1,5 million de différence,
oui.
Parce qu'il y a une méritocratie. Mm-hmm. Vous savez, sur les droits télé qu'apportent toutes les nations, il y a 10% grosso modo, c'est grosso modo de 100 millions, voilà, les droits télé.
D'accord.
Donc aux alentours de 10 millions qui sont à la méritocratie, le premier avec Grand Chelem ou pas, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et effectivement, entre la première et la deuxième place, il y a grosso modo 1,5 million, donc c'est important
pour la fédération. Si on en parle, c'est pas juste pour parler d'argent, c'est parce que derrière aussi, il y a le rugby amateur
qui souffre du Covid. C'est ce que je dis toujours aux joueurs. Mmh. Vous savez, votre mission, elle est de gagner, elle est de plaire pour attirer des licenciés.
Mmh.
Et deuxièmement, pour attirer des partenaires, parce que pour développer le rugby amateur, vous l'avez très très bien dit, il faut des moyens.
C'est du gagnant-gagnant.
Exactement.
C'est ce que vous voulez. Bernard Laporte, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Eh bien, on sera derrière le poste, derrière nos écrans. Match à suivre en intégralité sur Europe 1 à partir de 21h. J'avoue qu'une victoire nous ferait d'autant plus de bien en cette période où nous manquons probablement un peu d'artifice.
Exactement. Allez les
merci,
Bleus.
Merci. Allez les Bleus. Merci Bernard Laporte.
Europe 1, Wendy Bouchard.
18h26 et dans un instant, dans l'essentiel de l'actualité, le débat des grandes voix. Alors que dans les 19 départements confinés, une classe fermera désormais dès le premier cas de Covid. Alors que Matignon renforce ses contrôles dans les gares, les aéroports et aux péages routiers. Emmanuel Macron est-il au pied du mur? On en débat dans un instant sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Wendy Bouchard.
Merci d'être à l'écoute de ce 18-20. Si vous nous rejoignez, c'est l'essentiel de l'actualité avec Christophe Lamarre.
Un seul cas positif chez un élève entraînera la fermeture de toute sa classe dans les 19 départements soumis au confinement. Annonce de Jean-Michel Blanquer tout à l'heure, le ministre de l'Éducation nationale qui insiste sur le caractère fondamental de l'école pour notre pays. Les vétérinaires et les dentistes vont pouvoir vacciner contre le Covid-19. La Haute Autorité de Santé vient de donner son feu vert. Les vétérinaires ne pourront vacciner que dans les centres de vaccination et pas dans leur cabinet. Les dentistes, en revanche, pourront le faire aux deux endroits. La France n'est pas complice du massacre des Tutsis au Rwanda, mais elle porte de lourdes et accablantes responsabilités. Conclusion d'un rapport rédigé par des historiens et remis à Emmanuel Macron. Selon cette commission, la France est demeurée aveugle face au génocide qui se préparait, mais rien ne démontre qu'elle y a participé. Environ 800 000 Tutsis ont été tués selon l'ONU. Et puis des centaines d'étudiants au stade Vélodrome à Marseille, pas pour voir du football, mais pour bénéficier d'un panier repas et un peu de réconfort. Opération organisée par les Restos du Cœur pour venir en aide à un public fragilisé par la crise sanitaire. Selon l'Observatoire de la vie étudiante, 55% des étudiants ont connu des difficultés à s'alimenter pendant le confinement.
Merci Christophe Lamarque, on retrouve à 19h.
pour la météo, c'est un temps encore mitigé, relativement mitigé, avant les éclaircies.
Alors, ça sera mieux qu'aujourd'hui, surtout dans le nord-ouest, mais ça sera moins bien que dimanche. Donc on est vraiment dans un entre-deux avec des pluies cette nuit qui vont s'évacuer demain matin par le nord-est. En début de journée, au nord de la Seine, le ciel reste menaçant avec des averses et même des flocons de neige dans les Vosges à 400 mètres, donc c'est vraiment pas haut. Dans l'après-midi, le temps redevient sec, mais toujours nuageux sur la moitié nord, plus lumineux au sud de la Loire, avec le Mistral et la Tramontane qui se lèvent dans le sud et qui vont souffler jusqu'à 60 km/h. Côté température, ça va baisser. On va perdre 4 à 6 degrés quand même demain, avec 0 à 10 degrés le matin et 12 à Lille l'après-midi, 13 à Paris et Brest, 15 à Biarritz et Lyon, 17 pour Bordeaux et 20 à Toulon. C'est une transition. Le meilleur reste à venir.
Comme le meilleur sur Europe 1 aussi, à partir de 20h, émission spéciale rugby, n'oubliez pas, avant le match à suivre en intégralité, France-Écosse, tournoi des 6 nations, et les Bleus qui peuvent encore, avec un gros différentiel de points, 21, gagner ce tournoi.
Europe Soir, le 18-20, Wendy Bouchard.
Voici les grandes voix de ce vendredi 26 mars. Et à la une, on vous le disait, Matignon qui annonce l'intensification des contrôles dès aujourd'hui dans les gares, les aéroports et aux péages routiers. La conférence de presse de Jean-Michel Blanquer qui évolue aussi sur le durcissement des mesures à l'école. Désormais, une classe fermera dès qu'un cas de Covid est signalé. Les chiffres sont mauvais. 30% de personnes positives au Covid de plus chaque jour en une semaine. Qu'est-ce à dire? Combien de temps faudra-t-il repousser l'idée d'un vrai confinement? Est-on à un point de bascule? Question que nous échangeons ce soir avec Louis de Raguenel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Bonsoir.
Bonsoir Wendy.
Avec Henri Werner, rédacteur en chef adjoint au Parisien. Bonsoir Henri.
Bonsoir.
Et Éric Scholl, directeur de la rédaction de l'Express. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
De nouveau, nous avons donc été prévenus hier après le discours d'Emmanuel Macron en marge du Conseil européen sur le passé et sur le futur proche.
Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison le 29 janvier de ne pas prendre de mesures de fermeture. Nous avons eu raison ensuite d'apporter des premières mesures de freinage. Et en fonction de l'évolution de cette épidémie, nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure. Et il n'y a à mes yeux aucun tabou.
Aucun tabou pour les prochaines restrictions. Ça commence dès cet après-midi avec l'annonce de Jean-Michel Blanquer. On va donc durcir le protocole, le dispositif dans les classes, Louis de Raguenel.
Absolument. Bon, clairement, oui. Donc, il n'y a plus de tabou. Il y en avait avant, parce que ça, c'est quelque chose de nouveau. Il y a encore quelques semaines, il était inconcevable de fermer une classe, une école, ou alors sauf dans des cas extrêmes. Et donc là, ça montre vraiment que Emmanuel Macron est au pied du mur, parce qu'il voit bien qu'en fait, son pari politique, il a beaucoup de mal à le tenir. Son pari politique, rappelons-le, c'était de ne pas confiner le pays, ne pas reconfiner le pays. Et donc, en fait, toutes les mesures qui paraissaient un peu infranchissables, eh bien, maintenant, elles deviennent franchissables. Donc, il y a la question des écoles. Évidemment, il y a la question aussi du reconfinement un peu plus strict des régions qui est aussi sur la table et de toutes les mesures, en fait, du confinement qu'on avait connu en novembre dernier. Ça ne veut pas dire que ça se fera immédiatement, mais en tout cas, voilà, il y a quand même une évolution dans le discours. Il y a encore quelques semaines, quand on posait des questions aux porte-parole du gouvernement ou à certains ministres, pour eux, c'était quasiment inconcevable qu'on puisse revenir sur ces mesures-là. Maintenant, il y a une petite nouveauté et donc il y a une inflexion du discours. On sera fixé en tout cas jeudi prochain, lors de la prochaine conférence de presse du gouvernement. Et à mon avis, là, pour le coup, on aura des annonces de mesures un peu plus dures.
Très bien. En effet, les écoles nous préoccupaient votre journal, Henri Werner. C'était la une du Parisien aujourd'hui. La une de demain sera probablement dans cette veine-là aussi.
Oui, également sur les mesures sanitaires, sur lesquelles le durcissement que pourrait avoir en tête Emmanuel Macron. Cela dit, aucun tabou. Il reste quand même encore le mot tabou de confinement. On voit bien que ça, un reconfinement en bonne et due forme, si j'ose dire, c'est-à-dire avec de véritables fermetures, et y compris des fermetures d'écoles. Et c'est ce que demande, vous citiez le dossier du Parisien ce matin, une épidémiologiste justement dit que la vraie mesure, notamment en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, c'est-à-dire là où d'une part les hôpitaux sont saturés, les réanimations, les salles de réa sont saturées et où d'autre part l'incidence de contamination est très forte, là elle ne voit, et bien de ses collègues avec elle, pas d'autre solution que des fermetures pures et simples. Et par ailleurs, c'est vrai qu'un degré, vous le disiez, est franchi avec un seul cas suffira désormais pour qu'une classe ferme. Néanmoins, ce qu'attendaient, alors bien sûr les syndicats, mais également tout simplement les professeurs, les enseignants, les travailleurs de manière générale dans les établissements scolaires, attendaient quand même quelque chose de plus gradué, mais de, par exemple, l'imposition des demi-jauges dans les collèges. Pour l'instant, ce n'est valable que dans les lycées. Donc ça, ce n'est pas décidé. Alors, est-ce que ce n'est pas encore décidé ou pas décidé du tout? Et dans l'allocution de Jean-Michel Blanquer, ce qui était intéressant, c'est à quel point il a rappelé à quel point le totem, alors ce n'est pas un tabou, c'est un totem,
oui, oui.
Ce totem de l'école ouverte reste totalement valable. Il l'a encore répété tout à l'heure, parce que bon, bah, c'est en effet, c'est le choix qui a été fait, le choix politique qui est fait, et ce qui nous distingue de bien des autres pays.
Éric Scholl, Jean-Michel Blanquer répond aussi à la doléance notamment du syndicat SNUIPP-FSU, qui voulait qu'une classe ferme à partir du moment où un cas Covid avait été diagnostiqué, qui avait déposé un préavis de grève du 29 mars au 16 avril. Donc on essaie de détendre un petit peu aussi la situation, manifestement.
On essaye, mais on est rattrapé, et on le voit bien, par la pression sanitaire dans les écoles. Mmh. Le ministre de l'Éducation a beau rappeler que le nombre d'élèves contaminés depuis une semaine représente finalement un tout petit pourcentage de l'ensemble des élèves scolarisés.
1%. C'est des, ou, 1% des établissements moins. Et 0,17% des
donc
personnes.
C'est tout petit.
C'est
mais
tout petit.
Par contre, la progression est phénoménale. Et en fait, là-dessus, c'est une sorte de course contre la montre. Et alors, il y a peut-être d'autres moyens. Il y a accélérer la vaccination des enseignants, qui est prévue plus tard, peut-être la ramener, mm-hmm. Commencer cette vaccination plus tôt. Il y a sans doute des solutions encore possibles, mais on voit que le gouvernement, de manière générale, est maintenant dos au mur, parce qu'il est pris par cette pression sanitaire qui n'était évidemment pas du tout la même le 29 janvier dernier, lorsqu'on a décidé de ne pas faire de reconfinement, lorsque le président de la République, et que ça a été annoncé par le Premier ministre, avait décidé de ne pas faire de reconfinement. Mais à l'époque, il avait quand même à peu près tous les éléments en main de modélisation, même si aujourd'hui, il nous explique que c'était des mauvais modèles. Quand on les regarde de près, il nous donnait à peu de choses près la situation telle qu'elle existe aujourd'hui sur le plan sanitaire.
Absolument.
En France.
Oui.
Et c'est là où on se dit qu'on a peut-être... Alors, le gouvernement va dire qu'on a gagné 2 mois de liberté. On va peut-être se dire qu'on a perdu aussi du temps pour amoindrir cette pression sur les hôpitaux qui est extrême aujourd'hui, notamment en Île-de-France.
Éric Scholl, vous avez raison de dire, en dépit du fait que l'école est sacrée, de rappeler ces chiffres. Il y a 12 millions d'élèves, 21 183 élèves positifs, ça fait 0,17% des élèves. Oui, mais la progression est fulgurante, Louis Dragnel, qui provoque probablement la réaction du gouvernement, plus 60% de contamination en une semaine chez les élèves. Donc ça peut aller très vite, avec le variant anglais notamment, et la situation peut devenir là pour le coup incontrôlable. Donc on prend les devants, un peu.
Là, cette fois-ci, pour le coup, de toute façon, il n'y a plus beaucoup de possibilités. Mmh. En fait, comme on ne peut plus pousser les murs dans les services de réanimation, alors on a coutume de dire, on entend maintenant de plus en plus que de toute éternité, les services de réanimation ont été saturés. Il n'en demeure pas moins que là, aujourd'hui, à la période qu'on vit, il faut pas vraiment. Si on fait un AVC aujourd'hui, ça va quand même être compliqué d'être pris en charge. Donc il y a aussi d'autres questions morales, éthiques aussi qui se posent. C'est-à-dire que dès lors qu'on continue en fait de laisser la vie suivre son cours librement, avec assez peu de mesures de contraintes, les conséquences quand même, ça va être qu'il y a des patients qui ne seront plus pris en charge, il y a des déprogrammations, il y a quand même, notamment pour les services de chirurgie, où on est en Île-de-France à 80% de déprogrammation des interventions chirurgicales, et il y a une donnée dont on ne parle pas du tout, c'est les gens qui pourront mourir en fait, de cette déprogrammation, et il y a des estimations qui sont faites, hein,
oui.
Entre 10 et 20 000 morts. Et
donc, Axel si vous voulez, Kahn en fait, les fait très bien.
Exactement. Et du coup, en fait, on passe d'un problème éthique et moral à un autre. Mmh. Mais cet autre problème, en fait, est assez peu soulevé pour le moment.
Axel Kahn, je me permets de le citer parce que vous le citez dans Le Parisien, Henri Vernet. Il dit « Certains n'osent toujours pas le dire, mais tout le monde le sait. Les écoles et les lycées sont l'un des principaux, si ce n'est le principal foyer de contamination. Aujourd'hui, cette musique-là, elle monte. »
Mais oui, mais donc vous voyez bien qu'il reste des tabous. Mmh. Puisqu'en effet, bon, bah, lui, il peut les briser. Il est dans son rôle en le faisant. Mais c'est vrai qu'en réalité, ce qu'on voudrait, c'est avoir la certitude que ce maintien donc dans un non-confinement, c'est-à-dire que ce maintien d'une vie qui continue d'une certaine manière, et surtout donc ce maintien des écoles ouvertes, on voudrait être sûr que ce ne soit pas pour des impératifs, disons, politiques et économiques. C'est-à-dire pour ne pas se déjuger sur le plan politique. Or, parfois, on a un petit peu cette impression. Je veux dire que le numéro du président Macron hier soir revenait un petit peu à ça en disant « Attention, non, je n'ai pas de remords, je n'ai pas de regrets, puisque j'avais raison. » C'est vrai au même moment où Mme Merkel, elle, alors peut-être qu'on a un petit peu exagéré, enfin pas exagéré, elle a bel et bien fait des excuses, mais enfin, elle s'est excusée pour des décisions qui venaient dans le futur, non pas pour ce qu'elle a fait dans le passé. Néanmoins, il y a cette obstination, disons, d'un maintien de cap politique. On voudrait être certain que ça n'obère pas les conditions sanitaires dont ont besoin aujourd'hui les Français.
Henri Vernet, merci. Éric Chalouis Dragnel, combien de temps faudra-t-il repousser l'idée d'un vrai confinement? C'est ce que demandent en cœur les épidémiologistes, les médecins. C'est la suite de notre débat des grandes voix dans un instant.
Europe Soir, le 18-20, Wendy Bouchard.
Et nos débatteurs en ce vendredi 26 mars, Louis Dragnel, chef adjoint du service politique, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien, Éric Chol, directeur de la rédaction de l'Express. À quand la fin, titre votre journal cette semaine, sur les scénarios de sortie de la crise sanitaire. Oui, nous espérons tous que les vaccins et les beaux jours nous offriront un avenir meilleur, mais en attendant, nous avons 19 départements confinés, 2 régions durement touchées, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, et une accélération des signes. Alors on parlait de l'annonce de Jean-Michel Blanquer sur les écoles. Ce matin, après une visite à l'hôpital de Melun et une situation qu'il a jugée préoccupante, Jean Castex a annulé son déplacement dans la Manche. Il l'a remplacé par une réunion avec les préfets, les directeurs généraux des ARS des 19 départements. Ces signes-là qu'il se trame quelque chose et que ces mesures pourraient être prises, une mesure de durcissement encore la semaine prochaine, Éric Chol, très clairement.
Si vous voulez, depuis un an, il y a un juge de paix dans cette histoire, c'est quand même les salles de réanimation, le taux d'occupation des salles de réanimation. Et quand on voit le niveau à Paris, en Ile-de-France, on est bien au-delà des 100%.
121% à Paris.
En France, je crois qu'on est autour de 90% ou 90%. On voit qu'on a atteint nos limites. Alors, on peut peut-être ouvrir des nouveaux lits, mais chaque nouveau lit, il faut 5 ou 6 infirmiers ou infirmières qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'il faut former. Ça prend du temps de les former. Et on n'y est pas. Donc, aujourd'hui, il y a une urgence. On a une situation d'extrême urgence aujourd'hui sur le plan sanitaire. Et le gouvernement, on a l'impression qu'il est totalement rattrapé par cette situation. Alors oui, on a essayé de laisser de la liberté parce qu'il en fallait, et pas uniquement d'ailleurs sur le plan économique. On a laissé de la liberté même pour le moral, pour l'aspect psychologique. Quand on parle des élèves, il y a aussi cette question-là. La question psychologique est très importante. Mais on voit aujourd'hui que l'ensemble de des compromis qu'on a essayé de trouver depuis des semaines est finalement dépassé par l'aspect sanitaire.
Oui, et ce sont des compromis qui dépassent aussi les Français. Regardez ce sondage Elab. 74% des personnes interrogées estiment que ces mesures ne sont pas cohérentes, 73% qu'elles ne sont pas efficaces, 65% qu'elles ne sont pas simples à comprendre. Louis Dragnel, il y a un problème ici de l'opinion et de son positionnement face au choix du gouvernement.
Alors il y a un sujet majeur, c'est que déjà c'est très difficile de comprendre et de suivre. Nous-mêmes journalistes, notre métier c'est quand même de suivre ça toute la journée, et parfois il arrive quand même qu'on en vienne à la fin de la journée à se poser la question, mais en fait sous quel régime on vit, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit? Et du coup, pour des gens qui forcément suivent, nous c'est notre métier, pour la plupart des gens c'est pas leur métier, déjà quand c'est très difficile à comprendre, c'est pas clair, on voit bien que le gouvernement hésite, on voit qu'il y a deux lignes au sein du gouvernement. Il y a ceux qui prône un confinement assez dur, et puis en fait il y a tout le reste du
Olivier
gouvernement,
Véran,
et Olivier Véran, Jean Castex, et tout le reste du gouvernement qui est même un petit peu abattu en fait, qui en a marre, qui est comme les Français, ils en ont marre de ce confinement, ils en ont marre de ne travailler que sur ces sujets-là. Et du coup, en fait, forcément, ça se ressent. Si vous voulez, on a dépassé le premier anniversaire du confinement. Et ça, c'est un coup psychologique extrêmement fort. Et du coup, voilà, je pense que c'est aussi une grande lassitude. Et c'est pour ça aussi que les gens acceptent. C'est l'acceptabilité, l'acceptation sociale.
Bien sûr.
Et ça, c'est une vraie question. Parce que si demain, Emmanuel Macron décide de durcir, vraiment, on se pose la question, est-ce que les Français vont accepter ces mesures? Et même, est-ce que les policiers et les gendarmes, dont on parle beaucoup là depuis ce matin, est-ce que réellement, ils vont faire appliquer, respecter les contrôles? Parce qu'eux-mêmes ne trouvent pas de sens à la mission qui leur est confiée. Un policier, quelqu'un qui rentre dans la police nationale, ils ne rentrent pas dans la police pour faire des contrôles sanitaires et
contrôle
vérifier des attestations.
Et aux aéroports. En effet, il y a ce point de bascule qui se joue à la fois dans la position du gouvernement et dans ses mesures, mais aussi dans le comportement des Français. Vous avez fait un dossier cette semaine, Henri Vernet, pour le Parisien, sur cette lassitude et ces Français qui de plus en plus bravent les couvre-feux, les mesures, parce qu'ils en ont marre, et alors qu'on est au point le plus délicat de la situation.
Oui, parce qu'ils en ont marre, mais ça rejoint également ce que vous signaliez à propos du sondage, c'est-à-dire qu'ils les bravent également parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir bien compris ce qu'on leur demandait. Et parfois, ce désarroi, il faut bien reconnaître que les autorités y aident un petit peu. Quand vous faites une attestation, alors bien évidemment, cette question totalement ubuesque a été réglée en l'espace d'un week-end. Là, pour le coup,
on s'est mis à la place du quidam.
On a su reconnaître une erreur et faire quelque chose de beaucoup plus simple. Mais on est en plein dans la complexité et dans l'incompréhension du coup, parce que le comportement adopté, tout simplement, les gens avaient du mal à le déduire d'un document aussi complexe et aussi compliqué à remplir. Donc voilà, tout ça suscite une espèce de incompréhension, on l'a dit, de défiance également. Et s'il y a défiance, eh bien, ça incite à braver finalement des consignes qui nous sont données par quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Et c'est ça qu'il est important de rétablir aujourd'hui, de donner un cap. Et là aussi, il faut bien dire que le discours a beaucoup évolué. Alors, c'est rappelez-vous, il y a quelques temps, Emmanuel Macron avait dit c'est encore l'histoire de 4 ou 5 semaines, c'est-à-dire mi-avril. On a bien compris désormais que ça ira beaucoup plus loin. On parle maintenant du 14 juillet, assez symboliquement d'ailleurs.
C'est, c'est insupportable.
Voilà, c'est insupportable.
C'est un supplice chinois depuis un an.
Bien
et
sûr.
Donc pour plein de gens, moi c'est là pour le coup, c'est du vécu. Je vois autour de moi des gens qui sont disciplinés, qui honnêtement respectent les lois et tout, et qui soudainement, en fait, on peut plus et ont envie de se faire leur confinement.
Parce que la loi, c'est la loi. C'est ce qu'a reconnu Emmanuel Macron, le maître du temps, c'est le virus. Ouais. Et donc c'est lui qui dicte sa loi.
Et on avait une arme face au virus. On l'a toujours. C'est le vaccin. On va en parler. Je vous donne la parole juste après la pause. Éric Scholl de l'Express et du vaccin. Est-ce qu'on peut justement là aussi assouplir les conditions vaccinales? C'est peut-être les arguments que brandissent en tout cas un certain nombre de politiques. David Lisnard, on pourra en parler. Anne Hidalgo également. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Wendy Bouchard.
18h50. La fin du débat des grandes voix avec nos débatteurs Louis Dragnel d'Europe 1, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien, et Éric Scholl de la rédaction de l'Express et dans les le directeur. Comment remobiliser les Français qu'on disait lassés, justement, inciviques dans la lutte contre le Covid, Éric Scholl?
Écoutez, pour les remobiliser, ce qu'il faut, c'est leur indiquer un chemin de sortie. Il faut leur indiquer qu'on va finir par sortir à un moment tout ça. Alors, il y a des éléments qui vont être un peu difficiles parce que dans quelques jours, on va passer le cap des 100 000 décès. Hein. Il y en a eu 17 000 depuis le 29 janvier dernier. Depuis le début du coronavirus, on compte plus de 100 000. On comptera de temps. Quelques jours, plus de 100 000 morts. Mmh. Mais maintenant, pour sortir de tout ça, on le sait, il n'y a qu'une seule sorte de sortie, c'est la vaccination. Il faut accélérer à part tous les moyens possibles. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer d'être fait en élargissant au maximum les possibilités de se faire vacciner. Maintenant, là-dessus, il reste une incertitude majeure, c'est l'incertitude industrielle, c'est-à-dire la capacité d'obtenir les vaccins, de se faire livrer. Et ça, je dirais, d'une certaine façon, ça ne dépend pas que de la France, c'est aussi de l'Union européenne, et c'est aussi le ratage, des ratages de l'Union européenne qu'on paye. On le voit par rapport à l'Allemagne, finalement, on est à peu près au même niveau, il y a 10% de la population jusqu'à présent qui s'est fait vacciner. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand on compare au Royaume-Uni, quand on compare aux États-Unis, qu'est-ce qu'on est mauvais?
Et il y en a qui ne veulent plus être spectateurs justement de ce triste spectacle. David Lisnard, notamment le maire de Cannes, se lance dans un bras de fer contre le gouvernement et il veut commencer la vaccination des personnes de plus de 50 ans, y compris sans signe de comorbidité. Donc il veut anticiper sur la marche à suivre du gouvernement. L'idée est lancée, il va le faire, quitte à être dans l'illégalité, Louis Dragnel?
Alors oui, il va le faire. Après, il fait un coup politique, clairement. Alors, il y a aussi une
idée de fond. Oui, mais ça peut faire bouger les choses.
Derrière, ça peut effectivement faire bouger les choses, et pourquoi pas. Mais ensuite, il va très rapidement être rattrapé par le fait qu'il n'y a pas de dose, en fait, que ça manque. Et donc, il ne va pas réussir à vacciner toute la population, toute la classe d'âge de la population de sa ville, à partir de demain. Mais du coup, ça soulève la question que vous pointiez tout à l'heure. C'est en fait c'est l'échec vraiment de la stratégie européenne sur les commandes de vaccins. On voit bien qu'on a été naïf en fait. On exporte par exemple, les chiffres sont tombés hier, l'Union européenne a exporté en 2 mois 43 millions de doses dans 33 pays, dont la Grande-Bretagne par exemple, et n'a importé 0 dose. On voit bien que par exemple le contrat AstraZeneca, l'Union européenne a commandé 130 millions de doses, on en a reçu 19 millions. Donc AstraZeneca n'a vraiment pas honorer son contrat. Et donc là, pour le coup, on se transforme très rapidement. Enfin, le débat va vite se transformer en débat sur la responsabilité politique à la fois d'Emmanuel Macron pour le territoire français et puis de l'Union européenne. Parce que,
Oui, mais en attendant, il va falloir agir. Et justement, est-ce que la proposition aussi d'Anne Hidalgo d'ouvrir au maximum la vaccination, quel que soit l'âge, cette idée peut se faire son chemin en Rivernais? En gros, si vous voulez être vacciné, vous y allez.
Oui, à la fois. Bah, encore une fois, le problème des doses que souligne
ça, c'est
Louis
sûr.
Est quand même
momentanément, on va dire.
Crucial.
Il y a un horizon plus positif dans un mois.
En effet, on peut espérer que les livraisons, notamment de Pfizer, de Johnson & Johnson, qui va arriver. Et pourquoi pas, regardez les Allemands qui ont dit maintenant OK au vaccin russe, Sputnik V, bien qu'il ne soit pas encore homologué par l'Agence médicale européenne. Et donc, l'idée d'Hidalgo, le geste assez spectaculaire, mais Hidalgo aussi, c'est assez politique quand elle dit accélérons, etc. Chacun a son calendrier électoral propre en tête. Néanmoins, cette idée d'élargir et en tout cas de toucher de nouvelles professions, disons, les
je suis prof, j'ai envie.
Par exemple, les enseignants, bien oui, ça paraîtrait tout à fait cohérent de vacciner aujourd'hui les enseignants. Là, au moins, on comprendrait pourquoi on maintient ce totem, on donnerait les moyens d'avoir cette politique assez ambitieuse de garder refermer les écoles ouvertes, donc vaccinons les enseignants, ça paraît en effet assez prioritaire. Et puis également les autres premières lignes. Mais oui, c'est vrai qu'il faudra faire des choix et peut-être revoir cette stratégie pour l'instant qui reste encore ciblée sur les plus faibles.
Vaccinons les enseignants, fermons une classe dès qu'un cas de Covid est déclaré. Bon, déjà là, on essaye de baliser un peu plus pour rassurer Éric Scholl. Et on
oui,
va dans
bien
le bon
sûr,
chemin.
Et peut-être que sur l'école, il y a encore d'autres choses à faire. Mmh. Il y a peut-être ce qui avait été proposé au mois de février et ce qui ne s'est pas fait, c'est-à-dire fermer peut-être les écoles à un moment en jouant sur les vacances, de façon justement à pouvoir éviter d'être pris de court. Et là, on peut se reposer la même question, je crois que c'est Valérie Pécresse qui l'a proposé, en tout cas sur l'Île-de-France, de fermer les écoles un peu plus tôt, mais au fond, peut-être pour mieux pouvoir les rouvrir derrière. Il y a des solutions qui sont sur la table, il faut s'en emparer le plus vite possible et non pas après quand on est dos au mur.
Éric Scholl, à quand la fin? C'est la une de l'Express jusqu'au 31 mars, les scénarios de sortie de la crise sanitaire. Vous ne connaissez pas encore le titre exact.
Non, mais ça tourne autour de ça, de ce que Macron Parisien. A en tête, ce qu'il peut préparer sur le plan sanitaire, les pistes, quoi, les pistes qui restent, un gouvernement
décidément,
qui n'a plus trop de choix.
C'est aussi neurologique tout ça. On a envie d'être dans les cerveaux de chacun. Merci.
Des décideurs.
Oui, absolument. Merci, et Louis Dragnel, merci beaucoup. Chef du service politique adjoint d'Europe 1. Merci à tous les trois, messieurs.
Europe 1, Wendy Bouchard.
On va se retrouver dans un instant pour le journal de 19h, carte blanche sur les ouvriers du Qatar et notre club des idées, la parodie et l'humour comme arme de résistance. Avec nous ce soir Christophe Alévèque, l'humoriste et chanteuse Christelle Cholet, l'acteur et metteur en scène Nicolas Briançon. On va reparler du Covid, mais par un biais détourné. Un peu de dérision peut-être à partager, à tout de suite.